le journal, Sébastien Berriot.
Bonsoir à tous. La perspective d'une trêve humanitaire se rapproche à Alep, en Syrie. La Russie promet une pause de 48 heures dans les combats, une fois par semaine. Reste maintenant à négocier les détails de cette trêve, notamment pour sécuriser les routes. Explication avec à Beyrouth, Laure Stéphan. Un mois après la tentative de coup d'État à Ankara, le PKK reprend ses attaques. Une série d'attentats a fait 14 morts aujourd'hui. Alexandre Billette nous appellera d'Ankara. Et puis le procès des violences de Cisco en Corse reporté au 15 septembre. Les cinq prévenus étaient présents cet après-midi au tribunal de Bastia dans une ambiance quelque peu tendue. Le récit sur place de Maureen Suignard. Les habitants d'Alep en Syrie vont-ils enfin obtenir une pause dans les combats pour permettre d'acheminer dans la ville nourriture et médicaments? La pression exercée par les Nations Unies et l'Union Européenne va peut-être finir par payer. La Russie, qui se bat aux côtés des forces de Bachar el-Assad, a annoncé cet après-midi être prête à instaurer une trêve de 48 heures une fois par semaine. Elle pourrait démarrer cette trêve la semaine prochaine, permettant ainsi de soulager des centaines de milliers de civils pris en otage par des bombardements de plus en plus violents. Le point depuis Beyrouth avec Laure Stéphan.
Y aura-t-il une trêve humanitaire dans les prochains jours à Alep? Cette pause dans les combats pour secourir les habitants de la ville coupée en deux, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, la réclame depuis des jours. Annonce tactique ou décision réelle, la Russie, puissant soutien du régime syrien et l'un des acteurs majeurs de la guerre à Alep, vient de se dire prête à instaurer une pause humanitaire. Il s'agit, selon le ministre de la Défense, de permettre la livraison d'aide. Mais pour cela, Moscou pose des conditions, obtenir des États-Unis des garanties que le passage des convois dans les régions sous contrôle de l'opposition sera sécurisée. Et c'est l'ONU, selon Moscou, qui doit préparer les convois. Une annonce accueillie avec satisfaction par Stéphane de Mistura. Mais pour que ce projet se concrétise, des négociations sont encore nécessaires, notamment avec Moscou et Damas. À Alep, les besoins sont immenses. Les dernières livraisons des Nations Unies remontent au mois de juillet. Au cours des derniers jours, selon un militant joint dans les quartiers de l'est d'Alep sous contrôle rebelle, de la nourriture a pu entrer, escortée par les combattants anti-Assad, mais les stocks sont insuffisants. Dans les quartiers de l'Ouest tenus par le gouvernement, si les vivres existent, l'inflation et les rationnements en eau rendent le quotidien très difficile. Des deux côtés de la ville vivent des populations très appauvries. Il y a quelques jours, le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, estimait que la guerre à Alep était l'un des conflits urbains les plus dévastateurs de notre époque. Dans l'est d'Alep, c'est peu dire que les habitants attendront de voir les convois arriver pour croire à l'annonce faite par Moscou. Depuis une dizaine de jours, leurs quartiers sont la cible d'intenses bombardements menés par les avions de chasse syriens et russes.
Et pour la première fois depuis le début du conflit en Syrie, les avions du régime Assad ont frappé aujourd'hui des secteurs tenus par les forces kurdes, notamment dans la ville d'Asaké, dans le nord-est du pays. Les Kurdes de Turquie, eux, sont accusés d'être à l'origine d'une nouvelle campagne d'attentats dans le pays. En quelques heures aujourd'hui, plusieurs attaques ont fait 14 morts et plus de 200 blessés. Attaques attribuées au PKK. C'est une reprise des violences après un calme relatif depuis la tentative de putsch à Ankara. En Turquie, Alexandre Billette.
Début août, l'un des commandants du PKK avait promis d'intensifier les attaques. De fait, ce jeudi a été la journée la plus meurtrière dans l'est du pays depuis plusieurs semaines. Il n'avait pas été question de trêve après le putsch raté du 15 juillet, mais sur le terrain, les accrochages avaient diminué. Cette fois-ci, le PKK frappe fort, et notamment dans une ville, Elazığ, à majorité turque, et jusqu'ici épargnée par le conflit, ce qui fait écho aux dernières menaces du PKK d'étendre les attaques à l'ensemble du territoire turc. Si l'intensité du conflit devait augmenter, ce serait particulièrement difficile à gérer pour le pouvoir turc, mobilisé dans sa lutte contre les sympathisants du cerveau présumé du putsch raté, Fethullah Gülen, et alors que les forces de l'ordre, armées, police, services de renseignement, ont été touchées par les purges et sont en pleine restructuration.
Au Yémen, après la frappe meurtrière de lundi contre un hôpital géré par MSF, l'organisation annonce aujourd'hui l'évacuation de son personnel en poste dans 6 hôpitaux du nord du Yémen. Lundi, ce bombardement donc contre un hôpital par la coalition arabe avait fait 19 morts. Et puis en Espagne, Mariano Rajoy a fixé une date pour le vote de confiance devant les députés. Ce sera le 30 août prochain. Un pari risqué. Mariano Rajoy reconnaît lui-même que la majorité majorité absolue sera difficile à obtenir, même si le PP a réussi à obtenir le soutien de Ciudadanos. L'accord entre les deux partis doit être entériné officiellement demain. Les conservateurs ont besoin de l'abstention des socialistes également, mais ce n'est pas du tout sûr qu'ils puissent l'obtenir. Il faudra attendre la mi-septembre pour connaître le sort des 5 personnes citées à comparaître dans l'affaire de la rixe de Cisco en Corse. Cette bagarre qui a dégénéré le week-end dernier entre une famille d'origine maghrébine et plusieurs habitants du petit village. Le procès en comparution immédiate devait se tenir cet après-midi, mais il a été reporté. Donc, les 5 prévenus étaient présents au palais de justice de Bastia et l'ambiance était quelque peu tendue. Le récit de Maureen Suignard.
Depuis le début de l'audience, une très large foule était venue soutenir les 2 Cisquais jugés aujourd'hui. Tout cela s'est d'abord déroulé dans le calme. Certains attendaient avec des drapeaux corses à l'extérieur. Seule la famille a eu le droit d'assister à l'audience. Un jugement reporté donc, mais en attendant, les 2 Cisquais impliqués sont placés sous contrôle judiciaire. C'est donc bras dessus, bras dessous qu'ils sont ressortis du tribunal. Ils ont d'abord embrassé leur famille avant que la foule ne réagisse au cri de « on est chez nous ». L'ambiance est ensuite devenue électrique. Une partie des supporters des Cisquais a violemment chahuté les journalistes, les obligeant à rentrer dans l'enceinte du tribunal. Aujourd'hui, il y a donc 4 hommes placés sous contrôle judiciaire, les 2 Cisquais, mais aussi 2 des frères venus de Bastia. Mustapha, un autre frère, a été placé en détention provisoire dès cet après-midi. Et il pourrait y avoir de nouvelles interpellations puisqu'il manquait une personne dans les accusés aujourd'hui. Selon le procureur, un 4e frère venu de Bastia était présent sur la plage au moment des violences, mais il aurait usurpé l'identité de l'un de ses frères pour échapper au jugement.
Maureen Suignard au palais de justice de Bastia. Les confidences de François Hollande. L'hebdomadaire Le Point publie aujourd'hui les bonnes feuilles du livre publié par nos confrères Antonin André et Karim Rissouli. Conversation privée avec le président. 4 ans d'entretien avec le chef de l'État depuis le début du quinquennat. Un François Hollande qui évoque bien sûr 2017. L'envie, je l'ai, dit-il, mais il faut aussi une possibilité de victoire. Et puis le président revient sur ce qui restera comme un échec pour de nombreux Français, l'inversement annoncé de la courbe du chômage pour décembre 2013. Christine Moncla.
Je n'ai pas eu de bol, lâche le président Hollande quand il découvre la baisse du chômage en octobre 2013, parce que ce chiffre était trop bon trop tôt, explique-t-il aux auteurs du livre, trop tôt pour tenir jusqu'à la fin de l'année sa promesse d'inverser la courbe du chômage. Un ton assez familier, comme semblent l'être ces entretiens auxquels le chef de l'État a accepté de se livrer 32 fois en 4 ans. Il juge avoir bien tenu le pays pendant les crises terroristes et rejette sans complexe la faute sur d'autres quand sont évoqués des épisodes fâcheux. L'affaire Leonarda, c'est le Parti Socialiste qui a tout gâché en ne suivant pas ma ligne. La loi travail, c'est Manuel Valls qui a voulu passer en force. Il a le meilleur sens politique, certes, mais il est victime de sa communication. Pour lui, les regrets ne sont pas visiblement à l'ordre du jour. Il se montre même d'une déroutante assurance quand il évoque Nicolas Sarkozy avec cette petite phrase « S'il ne lui arrive rien, c'est lui que j'affronterai ». Le duel des présidents sortants est sorti, le remake de 2012 comme une évidence, comme s'il n'y avait pas de premier tour. Pas de Marine Le Pen, ni de concurrent, ni même de primaire en amont dans chacun des camps. Je renoncerai si ma candidature, je cite, ne pouvait pas se traduire par une possibilité de victoire. Reste à savoir comment se mesurera alors cette possibilité.
Voilà, conversation privée avec le président, publiée aux éditions Albin Michel par nos confrères donc Antonin André et Karim Rissouli. Le réseau social Twitter annonce la suspension depuis le mois de février de 235 000 comptes, des comptes qui contenaient des tweets faisant la promotion du terrorisme. Jacqueline Sauvage ne fera pas appel, ses avocates l'ont annoncé tout à l'heure en milieu d'après-midi, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, symbole des violences conjugales. Cette femme de 68 ans avait bénéficié d'une grâce partielle du chef de l'État, mais la justice avait refusé de lui accorder sa libération il y a quelques jours. Le procès, la suite, il y aura quand même une suite puisque le parquet, lui, a fait appel. Le temps pour demain qui va s'améliorer dans l'est du pays. Ce sera en revanche pluvieux sur le nord-ouest, du soleil dans le sud. Les températures l'après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 26 à Paris et Strasbourg, 28 à Aurillac et 32 à Bordeaux. 22h10 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été préparé en compagnie de Meta Chiteya. Je vous souhaite de passer une bonne nuit.